Bonjour. Aujourd'hui, une émission consacrée à la Nouvelle-Aquitaine, notamment le conseil régional. Je reçois en effet Maud Caruel, qui est adjointe au maire de Marmande et vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, en charge de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, de la prévention des déchets. Alors, bonjour Maud.
Bonjour.
Alors, Maud Caruel, qui tu es ?
Alors, qui je suis ? Donc effectivement, dernièrement je suis élue, mais mon parcours universitaire, j'ai fait des études en économie et en sociologie, voilà, sur l'université de Caen et de Toulouse, et ensuite expérience professionnelle dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle dans diverses structures, collectivités locales. J'ai travaillé en conseil départemental, en mairie et également en association, centre de bilan de compétences, etc. Donc à peu près une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans ce domaine-là. Et depuis 2020, donc élue à la mairie de Marmande, en Lot-et-Garonne, et depuis l'année dernière, élu au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Alors un charge au départ sur la mairie de Marmande, puisque déjà une action déjà de au niveau d'une ressourcerie, je crois, si mes sources sont bonnes, sur Villeneuve dans le temps.
Oui, je gérais une ressourcerie, effectivement, une entreprise d'insertion.
Donc on en reparlera par rapport à l'économie circulaire, ouais. Mais donc tu étais vraiment
les mains
dans le cambouis déjà depuis longtemps. Donc, au niveau de la mairie de Marmande, tu es adjoint au maire de Marmande en charge des politiques innovantes, de l'économie circulaire, du pack alimentaire, du projet Sésame Tiers-Lieu et de la cité formation professionnelle. Mmh. Alors, il y a des grands chantiers, notamment peut-être Sésame.
Oui, on peut parler de Sésame. Effectivement, on est en train de travailler sur la réhabilitation du site. Les anciennes cuisines César qui ont été rachetées en 2016-2017 par l'ancienne mandature. Donc on a repris ce projet pour le faire exister. Donc là, nous avons l'idée, c'est d'en faire un tiers-lieu, un lieu où il y aurait des activités autour de l'économie sociale et solidaire, de la formation, industrie culturelle et également autour de l'agroalimentaire, alimentation. Donc là, nous avons, la construction d'un plan de financement, l'intervention d'une maîtrise d'ouvrage. Nous avons commencé les travaux sur le site et le site devrait voir le jour à compter de juin 2023. Et en parallèle, un collectif s'est constitué d'associations locales qui sont intéressées pour habiter ce futur site, ce futur tiers-lieu. Donc voilà, donc c'est un travail en commun, à la fois la réhabilitation, à la fois ce collectif qui est en train de se créer, dans l'idée de se monter en association avant l'association de préfiguration pour devenir une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif.
Le but, c'est de le faire vivre. Quoi.
Voilà, c'est de le faire vivre, de l'animer, de faire émerger aussi d'autres projets en lien avec les acteurs qui l'habitent, avec les habitants aussi, avec les entreprises aussi du territoire. C'est vraiment un lieu de rencontre et de coopération et de collaboration à terme qui verra le jour.
C'est-à-dire qu'au départ, c'est une friche industrielle, hein, c'est ça ?
Ah oui, c'était une friche industrielle, 40 000 m² en fait.
4 hectares. Hein.
Donc voilà, et donc ce futur tiers-lieu, en face, on a le campus formation industrielle, où là, on a déjà des formations donc portées par la CFP, hein, notre centre de formation professionnelle, où on a déjà deux ateliers en soudure chaudronnerie. Et l'idée, c'est d'ouvrir deux autres ateliers. Donc, on est aussi en train de réhabiliter ces 2500 m², de le mettre en sécurité pour que ces plateaux techniques puissent investir le campus formation industrielle. Donc ce sera un vrai beau site en lien juste à côté de la CFP où on a déjà de la formation dans le sanitaire et social et dans le tertiaire. Donc vraiment une cohabitation entre les deux et une interaction. Voilà.
Un peu un Darwin marmandais quoi.
Un Darwin marmandais si on veut. En tout cas un vrai lieu de vie et de création et d'activité, quoi. C'est vraiment l'objectif.
Surtout que la CAP, la Cité Formation Professionnelle, ils sont venus présenter un petit peu la CAP, l'ADES aussi, il y a l'école aussi d'infirmières, il y a quand même un pôle de formation et d'enseignement qui est relativement important. Là.
Complètement.
C'est un campus, quoi.
Ouais. Et on a aussi Solin Cité avec son IME aussi qui est basé sur le site de la CFP. Donc il y a vraiment déjà un foisonnement d'activités et de formations sur ce site. Donc une complémentarité.
Surtout qu'en plus il y a l'université populaire en plus de Marmande, du POP, qui a la chance d'avoir un amphithéâtre relativement important. Donc c'est ce qui est intéressant de voir par rapport à l'activité Sésame. Alors également, je crois que vous êtes sur le programme alimentaire territorial.
Oui.
Mais peut-être avec la
On travaille avec l'agglomération, effectivement, sur le PAT. Et notamment, là dernièrement, on est en train de constituer une association qui portera la gestion et l'animation du futur pôle maraîchage bio, qui est basé sur Marmande, qui est existant depuis maintenant une dizaine d'années. Ce site accueille ce qu'on appelle des couvées, en fait, c'est des jeunes ou moins jeunes qui viennent s'essayer à l'agriculture jusqu'à 3 ans. Et ensuite, ils sont convaincus par l'activité, parce qu'ils sont véritablement, ils ont des mises à disposition de terres, de serres, et ils développent leur activité, leur vente, leur production. Et ensuite, passé ce test, ils recherchent des terres pour s'installer sur le territoire ou sur le sud Gironde.
Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'était au départ mis en place avec SAS Graines, qui est à Pau.
Ouais.
Et donc, ils ont un site aussi sur Bruges. Et c'est intéressant dans la mesure où celui qui a du mal à maîtriser le côté pratique, hein, parce que d'abord, il faut bien connaître savoir produire, c'est pas évident, d'essayer et puis d'avoir une démarche, de recevoir une clientèle, etc. Donc c'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il y a sur le site de la couveuse, on trouve des ventes par le biais presque d'une AMAP, où c'est qu'on peut venir acheter ses légumes le mardi, etc.
Ouais. Et c'est vraiment là l'idée, c'est de monter cette association. Effectivement, avant c'était SAS Grain qui gérait le site. Là, c'est de faire avec les acteurs locaux. C'est beaucoup plus simple pour gérer le site. Donc créer cette association également de préfiguration pour devenir une SIC. Où là, on a la mairie mairie de Marmande VGA. Aussi des exploitants agricoles qui sont intéressés par la démarche et qui viennent s'investir dans cette future association. Les couvées, évidemment, qui sont aussi dans la boucle. Donc, c'est vraiment faire vivre et valoriser ce qui se fait et aussi, à terme, accompagner pour la recherche de terres pour qu'ils puissent s'installer aussi vraiment à proximité du Grand Marmandais.
Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de retrouver, parce que là, je vois ici sur le cœur Entre-deux-Mers, ils travaillent sur le pôle territorial, ils sont en train de travailler commune par commune pour identifier des terres qui pourraient être pas pour de l'urbanisme, mais affectées, réservées à l'agriculture, parce que je crois que sur Bordeaux, on a à peu près l'équivalent de 1 voire 2 jours d'avance par rapport à l'alimentation. Donc si au bout de 2 jours on ne peut pas alimenter, à Bordeaux, ils commencent à avoir faim. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'autant plus qu'il y a des démarches sur les tomates qui partaient sur Rungis pour venir à Bordeaux, on revenir sur le local.
Et là, il y a les couvées qui ont investi le lieu, déjà, travaillent beaucoup avec Bordeaux, au final, aussi, pour alimenter via des AMAP. On le voit aussi en Dordogne, qui viennent aussi alimenter la Bordeaux Métropole, quoi, la métropole de Bordeaux. Donc, effectivement, il y a ces échanges entre nous, entre guillemets, le grenier alimentaire et la métropole pour...
C'est pour ça que beaucoup vont s'installer du côté de Bazin, ces terres sont pas très chères et on n'est pas loin de Bordeaux. Quoi.
Complètement. Voilà. Mais il nous faut garder aussi, même s'il y a déjà des agriculteurs, mais il nous faut aussi garder l'ensemble de nos agriculteurs sur
Alors la démarche, c'est qu'ils sont en agriculture biologique.
Oui, complètement. C'est de l'agriculture bio.
Ouais. Voilà. Donc on est toujours dans cette démarche durable, bio et locale.
Ouais, complètement. Ouais. Circuit court, voilà.
Circuit
c'est
court.
C'est l'objectif.
Et ça, c'est l'objectif par rapport à cette programme alimentaire territorial, puisque on est dans cette démarche de développer. Alors justement, on parlait de l'économie circulaire au niveau de la région. C'est quoi juste l'économie circulaire?
L'économie circulaire, pour faire simple, c'est concevoir un produit, ne plus être dans l'idée de le jeter, en fait. Un produit, on peut le réparer, on peut le réemployer, on peut le réutiliser. Donc c'est vraiment l'idée du cercle, en fait, hein, voilà, de sa conception, réfléchir à sa conception et déjà réfléchir à sa fin de vie, comment on va le réutiliser, le réemployer. Et plus être dans « on produit, on jette ». Voilà.
Quand le fait d'avoir été directrice d'une ressourcerie en plein dedans.
Ah bah oui, en plus j'allie sur mon périmètre d'intervention au niveau de la région, j'allie l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, effectivement, en ayant géré pendant près de 5 ans une recyclerie qui était une entreprise d'insertion sur le Villeneuvois. Donc,
et avec finalement une montée en puissance à ce niveau-là. Parce que moi, je regardais, il y a une émission qui est sortie la semaine dernière sur Arte, où c'est qu'on voyait Portland, qui est... Bon, ma fille a passé pas mal de temps là-bas, j'ai eu l'occasion d'y voir, d'y visiter, d'y passer du temps, où finalement, dans chaque quartier, on a des endroits où c'est qu'on peut déposer des meubles. Et après, ils mettent à disposition la population. C'est quelque chose qui s'est monté...
Ouais, c'est en tout cas on voit naître sur beaucoup de territoires des recycleries et des ressourceries. Hein. Les gens de plus en plus ont ce geste de donner en fait et d'éviter. Il y en a toujours, mais d'éviter voilà de la mise en déchetterie. Et aussi on voit les déchetteries qui installent des caissons de réemploi. Pour justement que les personnes qui viennent en déchetterie mettent dans ces caissons et que ça soit ensuite récupéré par des structures associatives, des recycleries s'il existe sur le territoire ou des associations caritatives. Mais ça se développe de plus en plus et effectivement on voit ce geste régulier et tant mieux parce que c'est vrai que c'est une façon de consommer différemment, d'éviter la surconsommation et d'être vraiment dans acheter du seconde main quoi et redonner vie à un produit quoi.
Extrêmement important parce qu'on est vraiment autrement dans le gaspillage. C'était le bic, le rasoir, le stylo jetable, c'était tout jetable. Hein, donc on est dans cette démarche. L'économie est en train de, malheureusement, on a des taux d'inflation qui commencent à se développer de manière conséquente depuis 6 mois. Je crois que de ce côté-là, tout le monde est en train de réfléchir les fins de mois, comment on peut arriver à trouver finalement des produits d'occasion, des jouets, on peut les retrouver à tous les niveaux. Quoi.
Et qui sont tout à fait entendables quoi. C'est pas du déchet entre guillemets quoi. C'est vraiment de la remise en état et de la revente dans ces magasins de seconde main. Donc c'est une vraie utilité et au-delà de ça, c'est une économie locale quoi. C'est entre guillemets redonner de l'économie sur les territoires via les ressourceries et les recycleries quoi. Donc tout le monde a y gagné.
On redonne du sens quoi.
Complètement. Ouais.
Alors on était parti à vouloir toujours une vision je produis un raisonnement local, vision globale et puis à l'échelle internationale, exporter, etc. Alors qu'on est en train de revenir à l'essentiel, ce que se faisait autrefois, et donc repenser finalement local, faire vivre les gens d'ici, et non pas en Chine ou ailleurs.
Oui, et en plus, on le voit aussi avec la pénurie des matériaux. Hein. La période de Covid nous l'a montré, et là, c'est aussi des délais assez importants pour récupérer de la matière hein, pour les entreprises, les artisans, etc. Donc c'est aussi l'idée de, de relocaliser, de réindustrialiser sur nos territoires, quoi. Récupérer cette matière et la retransformer. Donc c'est l'économie circulaire, c'est ça aussi, quoi. C'est vraiment au-delà des ressourceries, recycleries, c'est aussi récupérer de la matière, la transformer, refaire un nouveau produit aussi. Voilà. Mmh, donc
bon, on fait peut-être une petite pause musicale avec les Indes galantes de Clément Glodior.
Thank you.
Voilà, on vient d'entendre les Indes Galantes. Alors pourquoi les Indes Galantes?
Pourquoi? J'avais découvert le documentaire au cinéma Le Plaza à Marmande et j'avais vraiment adoré. C'est vraiment la rencontre de deux mondes qui ne se connaissaient pas, en fait. Musique de rue et opéra. Et ils ont été amenés à travailler ensemble pour ce spectacle et ils se sont trouvés des points en commun et en regardant ce documentaire, on sent une vraie osmose, quoi, une vraie envie de découvrir les uns les autres et c'est ce qui m'a séduit et c'est ce qui m'a transporté.
Absolument, d'autant plus que ce sont des jeunes des banlieues.
Complètement, ouais.
Qui connaissaient pas du tout l'opéra parce que c'était à l'Opéra Bastille.
Ouais, ouais.
Et pour un spectacle quand même d'opéra. Quoi,
ah hein. Oui, oui, de grande qualité, quoi. Mmh. Et c'est vrai que de les voir s'entraîner et toute l'émotion qui s'est dégagée aussi. Hein, ils en étaient jusqu'aux larmes, hein, tellement ils étaient pris les uns les autres. Et en tout cas, voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses aussi. Hein. C'est se faire rencontrer les uns les autres, découvrir les univers des uns et des autres. Et je fonctionne comme ça, quoi. De s'ouvrir aux autres et voilà, d'échanges. Et on trouve une richesse en chacun de nous, quoi.
Des chemins qui se croisent, finalement.
Ouais, complètement. Mmh. Ouais, ouais. Et alors qui s'apportent mutuellement, voilà, de... des choses intéressantes, de la matière, voilà, pour avancer.
Très bien. Alors, Maud, dernièrement, donc aux dernières élections régionales, tu as été en charge de l'économie sociale et solidaire.
Oui, ESS, économie sociale et solidaire.
Vice-présidente du conseil régional d'Alain-Rousset.
Oui. Ah, donc, économie sociale et solidaire, économie circulaire et gestion prévention des déchets.
Sacré chantier.
Voilà, sacré chantier, grande région aussi, hein, 12 départements à couvrir. Donc,
oui.
Et sur chacun des initiatives et des structures avec des vrais potentiels et des vraies innovations. Ce que je peux dire côté ESS, en tout
c'est
cas...
C'est quoi déjà l'économie sociale?
L'économie sociale et solidaire.
Par
alors,
rapport au reste.
Ouais. L'économie sociale et solidaire, les valeurs portées dans le cadre de l'ESS, ce sont des structures où la gouvernance est partagée, où la lucrativité est partielle, voire nulle, ou alors réinvestie dans les projets de la structure. Et on est sur des structures qui sont ancrées sur les territoires. Voilà, qui font vivre le territoire et qui existent parce qu'il y a eu un besoin à un moment donné. Et les habitants, les citoyens, les associations se sont dit comment on peut y répondre. Du coup, de là émerger des projets, des structures derrière. Voilà, c'est tout ça l'ESS.
On va trouver quoi? Des coopératives?
On trouve des coopératives de salariés, donc, ou des coopératives, comme je disais, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc là que c'est plus largement. On trouve les structures de l'insertion par l'activité économique, chantier d'insertion, entreprise d'insertion. On trouve les coopératives d'activité et d'emploi, c'est-à-dire ce sont en règle générale des auto-entrepreneurs qui collaborent et voilà, ils ont une gestion commune au niveau de tout ce qui est formation, RH, soutien financier,
ça c'est
etc.
intéressant par rapport
ça c'est super intéressant les
CAE
on en a voilà en coaction effectivement pour la plus proche ici à Capcieux et qui s'est aussi déployé en Lot-et-Garonne. Donc on en a sur toute la région. On a les tiers-lieux font partie aussi de l'ESS. Hein. Ce sont les tiers-lieux, ce sont des lieux hybrides avec différentes activités sur un même site. À la base, ça s'est développé beaucoup avec le coworking en fait. Hein, voilà, des bureaux mis à disposition. De travailleurs indépendants et au fur et à mesure d'autres activités sont venues s'imbriquer sur ces lieux.
l'effet Covid a accéléré. Ouais,
c'est ça.
C'est un peu une légère teinte, parce qu'il y a longtemps qu'on parle du télétravail, etc. Ouais. Mais bon, on a eu du mal à démarrer.
Ouais.
Ce n'est que dans certaines régions, Bourgogne, etc., mais très peu. Et finalement, ça s'est amplifié à une vitesse grand V. Ouais. Avec le Covid, quoi.
Complètement, ouais, effectivement, on en voit pas mal hein, de travailleurs qui viennent, indépendants qui viennent sur ce type de site. À l'échelle de la région, on a plus de 330 tiers-lieux qui ont été. Ça fait une dizaine d'années hein, que cette politique a été mise en œuvre par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça maille bien notre territoire. Il reste encore quelques zones blanches. Mais c'est des vrais lieux voilà, de rencontre et de travail sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Donc il y a les tiers-lieux, on a parlé donc de ces coopératives, mais pas que dans le domaine social, on va trouver...
Oui, après, c'est les associations aussi qui portent des projets d'innovation sociale dans tout domaine. En fait, l'ESS, c'est de l'économie sociale et solidaire, comme son nom le dit, ça couvre tout secteur d'activité. C'est vraiment...
ça peut être des banques aussi.
Au final, l'ESS est né des mutuelles. Ce sont les mutuelles, à la base, qui ont créé l'ESS. Les mutuelles se sont constituées dans l'idée de venir en aide aux salariés, en soutien aux salariés, voilà, dans tout ce qui est médical, etc. De là est né l'ESS et ensuite c'est déployé en complémentarité sur d'autres types de structures. Mais effectivement, les mutuelles font partie de l'ESS à l'origine. Le forum national de l'ESS a lieu à Niort.
Oui.
Le fief des mutuelles. Mmh. Et continuera à être sur Niort parce que voilà, ça a du sens effectivement de le faire exister là sur Niort.
Oui.
Donc,
et après, il y a des banques qui sont en dehors du conseil régional par rapport aux aides, mais il y a des banques qui font des prêts, etc.
Les fondations viennent en soutien sur les structures de l'ESS par rapport à des projets que développent les structures. Je ne pourrais pas citer toutes les fondations parce qu'il y en a énormément, notamment au travers, souvent on voit la Fondation de France. Qui est vraiment bien impliquée et qui déjà, elle, regroupe d'autres fondations aussi, mais viennent aussi soutenir les structures de l'ESS sur du développement de projets.
Alors ça veut dire que la région est relativement grande, puisque c'est aussi grand que l'Autriche, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de déplacements pour aller voir sur le terrain des choses extraordinaires.
Ah oui, c'est... Ça demande du temps, mais ça fait partie du job, entre guillemets. Et effectivement, je me bloque, comme la semaine dernière, je me suis bloquée toute la semaine pour aller visiter différents sites, entre guillemets, sur le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, pour aller rencontrer les structures. Parce que je pense que c'est important d'aller voir ce qui se fait, ce que la région Nouvelle-Aquitaine a soutenu, et mettre en valeur... tout le travail et l'énergie qui est faite dans ces structures. Donc pour moi, ça... Et c'est passionnant, c'est vraiment intéressant.
Là, qu'est-ce que... Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'imagine pas.
Non, c'est varié. Par exemple, j'ai été donc sur La Rochelle, une matériothèque, la matière, qui récupère des matériaux pour ensuite... les revendre. Et il y a le projet de développer ce site via l'agglo de La Rochelle pour en faire un vrai site économie circulaire. Sur Saintes, je suis allée rencontrer l'agglo de Saintes qui avait monté une collaboration avec COP Atlantique pour venir développer le financement participatif.
Oui.
Un euro investi par le citoyen, un euro de l'agglo et un euro de COP Atlantique. Et comme ça, ils sont venus soutenir 5 projets du territoire.
Et là, vous, la région, intervenez à un moment donné ?
Là, on n'est pas intervenu sur ce financement, mais effectivement, on a voté en commission dernière, permanente, 400 000 euros sur 3 ans pour venir abonder sur aussi du projet 1 euro région, 1 euro citoyen et des co-abondements d'entreprises ou de collectivités. L'objectif, c'est vraiment de développer du projet et puis de venir en soutien des citoyens qui croient à un projet et puis voilà, de lancer la machine.
Non. Quand on croit à des choses, on peut faire bouger les montagnes.
C'est clair. Il faut avoir l'envie et puis et je pense qu'il faut pas se décourager aussi. Il faut y croire et il faut tenter d'aller frapper à toutes les portes et à un moment donné, ça émerge quoi. À un moment donné, les gens y croient et c'est parti.
Et là, le poids économique de l'économie sociale et solidaire, c'est important en France ou à la région?
Alors, nous, on a un budget dédié, ce qui n'est pas...
Je parle le poids économique, ce que représente...
Ah ouais, j'ai pas en euros combien...
Non, mais un pourcentage par rapport à la population.
Au niveau, par exemple, de l'emploi salarié, à l'échelle de la région, on est à 14% de l'emploi salarié et de l'emploi ESS.
Ah, c'est énorme.
Voilà, et 17% en milieu rural.
Non, c'est énorme.
Donc, c'est important. Ouais, ouais, c'est important.
Ça va de l'ADMR.
En fait, toutes les associations sont considérées comme étant dans l'ESS. Donc, on a dit les mutuelles. Oui, toutes les coopératives sont considérées aussi dans l'ESS. Donc, c'est large, quoi. C'est ce qui explique ce pourcentage aussi important.
Oui, tout
donc,
à fait.
Et c'est pour ça que voilà, il y a un soutien qui est là et une mise en lumière de ce qui se fait.
Est-ce qu'il y a une tendance on est plus sur l'économie circulaire, enfin dans l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'il y a des tendances ou est-ce que c'est puisque ça touche à tout?
Ça touche à tout, mais c'est vrai que là dernièrement, on voit les structures de l'ESS s'investir dans le champ de l'économie circulaire, quoi. Voilà, dans la collecte, par exemple, de ce qu'on appelle des 3E, sur l'électroménager ou sur le numérique, pour derrière le démanteler, soit reconditionner de nouveaux appareils ou alors revendre la matière. Il y a pas mal de structures qui s'investissent là-dedans. Donc c'est assez large sur... sur par exemple on voit aussi des ateliers vélos aussi qui émergent en récupérant des vélos en les réparant, en les remettant comme il faut et en les revendant ou en les louant. Enfin, la liste est longue mais effectivement ils s'emparent et les structures de l'ESS on est aussi sur de la valeur humaine, sur de l'emploi, enfin de voilà des hommes
local,
et des femmes derrière,
local,
voilà c'est ça.
L'humain est au cœur.
Et au cœur de voilà des projets, des projets, des structures et c'est vraiment une mise en avant de l'humain et de son potentiel. Quoi.
Et vous, conseiller régional, vous êtes en charge plutôt d'aider pour tout ce qui est l'innovation.
Innovation, oui, on a notre AMI, appel à manifestation d'intérêt, innovation sociale.
C'est l'appel des projets, quoi.
C'est vraiment le projet, il est à l'état, il peut être à l'état de l'idée et se dire, nous on vient soutenir cette idée pour que derrière il puisse se déployer. Et souvent, ce qu'on voit là, on est en train de faire un bilan justement de cette AMI Innovation Sociale pour mettre en avant l'efficacité en fait de cette AMI Innovation Sociale parce qu'il est, on s'aperçoit que les structures qui ont été aidées dans le cadre de cette AMI sont toujours existantes. C'est vraiment le coup de pouce qui a permis de lancer. De lancer le projet et de le faire vivre sur un territoire.
Assurer une pérennité, quoi, d'entreprise.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et des idées, tout type d'idées, voilà.
Là, en matière générale, ce sont des entreprises, des petites entreprises, ça va jusqu'à la grosse entreprise.
Ouais,
en moyenne, c'est quoi? C'est des TPE?
Sur les structures de l'ESS, ouais, c'est TPE, oui, j'ai pas. Après, c'est ça peut être.
Moyenne 10 salariés, quoi, à peine.
Ouais, non, ça peut être plus.
Oui, mais je parle de moyenne.
J'ai pas la moyenne en tête, mais on peut être ouais, sur. On peut se dire ouais, TPE, mais on peut être sur des très grosses structures aussi. J'ai en tête les ateliers du Bocage, où ils sont plus de 300 salariés. C'est une entreprise d'insertion, entreprise adaptée. Ils sont sur du reconditionnement de matériel informatique. Et puis téléphone, enfin voilà, ils ont élargi leur palette.
Ils sont sur où ça vient?
Ils sont sur
Bocage,
ouais,
c'est le.
Ouais, je voudrais pas me tromper dans les départements, donc.
Oui, bien sûr. C'est en haut, quoi. C'est pas en bas, parce que c'est quand même assez grand.
J'ai un trou, mais voilà, c'est des structures importantes.
Et toujours là, on est insertion là.
Là, on est insertion, complètement. On est insertion et on est, ouais, on est ESS. Donc, donc c'est variable. C'est, comme je dis, l'ESS, c'est tous les secteurs d'activité et c'est voilà, toutes les modulations possibles et des nombres de salariés variables aussi. Quoi.
C'est important parce que quand on parle d'insertion, c'est quand même c'est des gens qui étaient, qui avaient fait des sorties de route et qui sont depuis 2 ans, 3 ans, même plus. Sorti du monde du travail et c'est déjà de les remettre sur la route, de les remettre dans un rythme de travail, de les remettre dans
de
une bonne direction,
de les remobiliser
et après qu'ils puissent être autonomes, parce qu'après, et c'est quand même pas évident.
Ah non, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des structures d'insertion par l'activité économique, parce que on est souvent sur des gens cassés ou vraiment complètement à la marge, et ça permet de parfois une fin de parcours, ça peut être juste de la du non-isolement, quoi.
Voilà.
En a beaucoup aussi qui sont isolés de tout. Mmh. Isolés de leur famille, isolés d'amis, qui se sont complètement refermés. Et le fait de venir dans ce type de structure, ils réapprennent à rencontrer du monde, à échanger, à être en équipe. Ouais, c'est ça. Et c'est ça aussi qui est important, quoi. Et derrière, ça peut déclencher plein de choses, quoi. On a vu, enfin, moi, j'ai vu en tant que directrice de structure, des beaux parcours, quoi, hein, notamment j'ai toujours en tête une femme qui était en difficulté familiale, en violence familiale, et du coup on l'a récupérée sur notre structure et maintenant elle est aide à domicile, elle a réussi à avoir son permis, sa voiture, enfin voilà, il y a eu tout cet accompagnement aussi qui lui a permis de trouver un logement aussi. Et ça y est, elle a pris son indépendance et elle a réussi à travailler et à être une femme dans la société, quoi.
Tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est des gens qui sont finalement des invisibles.
Oui, c'est ça.
Dont on n'entend pas parler.
Ouais.
Donc aussi, on entend parler des fois quand il y a un gilet jaune, parce que là, à ce moment-là, peut-être certains en ont marre d'être... Mais finalement, le fait de les sortir et de leur redonner confiance, parce que finalement, ils ont perdu complètement confiance.
Ah, complètement, c'est clair.
Et finalement... Ouais.
Et de les valoriser, en fait. Enfin, de leur montrer que ils ont des capacités, ils ont des compétences comme tout le monde, mais c'est juste les mettre en lumière, quoi.
Tout à fait. Alors on va de nouveau voir une petite pause musicale avec Grand Corps Malade, Mesdames.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Alors, toujours avec moi de Caruel, qui est vice-présidente du conseil régional de l'Aquitaine, en charge des commis circulaires, commis sociales et solidaires, la prévention et gestion des déchets. Pourquoi Grand Corps Malade ?
Et alors, pourquoi mesdames ? Et pourquoi mesdames ? Parce que je trouve que cette chanson... Déjà, j'adore Grand Corps Malade. J'aime sa voix et sa façon de chanter, de slammer. Et mesdames, je trouve que c'est une belle éloge aux femmes, en fait.
Tout à fait.
Et vraiment... Cette chanson est magnifique, donc voilà, c'était mettre en avant voilà toutes les femmes qui existent et merci à toutes voilà d'exister et puis de se faire exister quoi, voilà.
Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est à la fois quand il dit que ce soit la mère, la sœur ou la fille, hein, c'est tout est bien dit à ce niveau-là.
Ouais.
Alors, on est sur les communes sociales et solidaires, donc sacré chantier par rapport à pas mal donc d'appels à projets, d'innovation, etc. Plus finalement sur, on parlait des communes circulaires, donc c'est, alors les communes circulaires c'est aussi les personnes, puisque des personnes qui travaillaient, qui ont perdu leur emploi et qui reprennent du travail. On est bien sûr de
l'école. Oui, on peut dire ça.
Ouais, voilà. Et puis, finalement, avoir des produits qui sont le moins jetables et donc qui peuvent être le mieux valorisés parce que finalement, on va manquer de matières premières. On le voit déjà sur beaucoup d'éléments. Alors, un autre élément intéressant et important dont la région a pris... ça en main, accompagné de, bien sûr, l'ADEME, le CREA, etc., la prévention et gestion des déchets. Ça, c'est un sujet important.
Ah ouais, c'est un gros volet. Là, justement, on est en train de modifier le volet déchets du SRADAT hein, pour tenir compte des dernières lois, notamment la loi AGEC, la loi anti-gaspillage de février 2020. Et c'est un gros chantier. On le voit sur les territoires. Là, il y a des obligations légales qui font que on doit réduire le déchet, les exutoires, tout ce qu'on appelle exutoires, c'est-à-dire enfouissement et incinération, vont diminuer de moitié. Donc, il faut trouver des solutions pour diminuer le déchet. Donc, nous, la région Nouvelle-Aquitaine, on anime en fait. On accompagne les collectivités pour qu'elles développent des actions de prévention des déchets. Dernièrement, on a On a fait valider notre feuille de route déchets en séance plénière d'octobre pour présenter notre plan d'action qui rentrera dans le cadre de cette modification du volet déchets du SRADET. Par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est une convention d'objectifs dans l'idée d'accompagner tous les petits EPCI qui n'ont pas d'ingénierie et les accompagner financièrement pour qu'ils puissent avoir cette ingénierie et qu'ils puissent derrière réfléchir à quelle action pour réduire mon déchet sur le territoire et s'il y a du déchet ultime, vers quel exutoire je dois l'amener. Donc il y a ce travail qui est mis en place et aussi on a lancé un appel à projet en direction des EPCI qui ont en charge la collecte. Alors, et le traitement.
EPCI, c'est établissement
public de coopération intercommunale, ouais, c'est voilà. Style les communautés de communes, voilà. les agglomérations, les syndicats de collecte et de traitement du déchet. Donc c'est aussi déployer, les accompagner financièrement pour qu'ils déploient des actions de prévention. Parce qu'il y a urgence en fait à réduire nos déchets et c'est aussi on revient à l'économie circulaire, c'est aussi venir soutenir les entreprises dans la conception de leurs produits, éviter les suremballages qu'on peut avoir, éviter les surplastiques aussi qu'on a tous réfléchir à comment faire pour emballer nos produits mais avec le moins de matière possible, quoi. Donc il y a aussi cet accompagnement ces entreprises.
C'est carrément au niveau des entreprises parce que c'est en amont, parce que on dit
c'est en amont, ouais.
Parce que nous on nous dit il faut qu'on trie, etc. Ouais. Mais si on doit acheter ou c'est qu'on a quatre emballages avant de prendre le produit. Ouais.
En fait, c'est vraiment mettre tout le monde dans la boucle et responsabiliser tout le monde, quoi. Le citoyen, mais aussi celui qui met sur le marché ses produits. C'est faire en sorte qu'il réfléchisse et qu'il engage des actions pour éviter ce suremballage. Sinon, on n'y arrivera jamais à réduire le déchet.
Ça, c'est déjà la première chose. On a supprimé les poches plastiques.
Ouais. Déjà, dans les magasins, les grandes
surfaces, on n'a plus de poches plastiques.
Complètement.
Alors qu'avant, on avait des poches plastiques partout, etc.
Ouais. Il y a le vrac aussi qui se déploie, même dans la grande distribution aussi. Hein. Donc, les gens viennent avec leurs contenants. Donc, mais il faut encore, communiquer, développer aussi le geste de tri, accompagner. Communiquer, je l'ai dit, mais et ça doit se faire de façon pas punitive, mais vraiment dans l'idée de pourquoi on le fait, quoi. C'est quoi l'objectif derrière, et c'est pas pour embêter les gens, mais c'est parce que il y a besoin, il y a nécessité.
Alors disons que la taxe, tout ce qui est enfoui et incinéré va être multiplié par 3 voire 4. Il y a déjà longtemps que les élus en charge de ces aspects-là depuis plus de 10 ans sont au courant, mais l'échéance arrive en 2025. Donc tout ce qui est biodéchets ne doit plus rentrer dans la poubelle noire ou grise d'ici 2 ans.
1er janvier 2024, moins que 2 ans.
Mais bon,
on est en retard, clairement. Et je crois qu'on a attendu les derniers délais pour se mettre en route. Alors il y a des territoires qui se sont engagés depuis longtemps et qui avancent bien. Mais effectivement, il y a beaucoup de territoires qui est en retard. Alors, c'est pas propre à notre région, c'est sur l'ensemble des régions. Et du coup, il faut démultiplier, en fait. Et sur le biodéchet, effectivement, c'est au 1er janvier 2024, donc c'est quasiment là demain. Et c'est mobilisé, et c'est trouver les acteurs qui puissent collecter et ensuite retraiter derrière. Les choses se déploient, mais...
Oui, mais c'est comme les impôts, on attend au dernier moment pour les payer. Ça, c'est pareil, quoi. Tant que c'est pas obligatoire...
C'est ça, alors, c'est ça. Malheureusement, il faut en arriver à ça.
Alors, la poubelle jaune, quand même, on a quand même, de manière générale, on trie de plus en plus. Mais enfin, on est quand même, je vais écouter les derniers éléments, on trie plus à la milieu rurale qu'en ville. C'est peut-être aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais tout ça c'est pour réduire la poubelle noire. D'autant plus qu'on aurait une taxe incitative. Donc,
complètement. Qui va enfin, en tout cas, sur, elle s'est déjà mise hein, sur, sur certains territoires, la taxe incitative. Par contre, là où elle s'est mise, la taxe incitative, on a vu une réduction du déchet.
Alors, on dit que dans les bois, souvent, les gens...
Oui, les dépôts sauvages, mais effectivement, ça reste à la marge. Effectivement, ça existe, mais ça reste à la marge. Là, l'idée, c'est... je crois qu'il faut faire preuve de pédagogie, vraiment, et arriver à faire comprendre le message. Mais c'est vrai que les délais sont courts, et du coup, tout le monde ne comprend pas bien pourquoi, là, maintenant, on s'excite, entre guillemets. Quoi, mais,
Oui, surtout qu'en plus, bon, ça fait partie des impôts fonciers. Donc on la paye, on paye une taxe là-dessus. Et on voit pourquoi on s'est embêté à trier.
Ben, je pense qu'on n'a pas... Enfin, ça n'a jamais été clairement dit aussi, hein, le coût du traitement hein, des déchets, hein, il est important. En plus, on va sur quasiment tous les territoires sur des nouvelles déchetteries, puisqu'on a... on aura plusieurs bacs de tri avec ce qu'on appelle la responsabilité des entreprises. Ça fait pour la collectivité des montants énormes. Et donc il faut bien qu'à un moment donné, ça se répercute quelque part.
Avec les déchets verts.
Oui,
on parle à des chatteries avec ses branches, alors que c'est pas un déchet.
Ouais.
Au contraire, ça va être valorisé.
Ouais. Et on va y arriver là-dessus, quoi, amender nos sols avec les déchets verts pour éviter ces tas sur nos déchetteries et on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà.
Alors à Lot-et-Garonne, je crois qu'il y a les états généraux des déchets.
Complètement organisé par Valorizon.
Qui a lieu, je crois, Marmande, de mercredi prochain.
Ouais, c'est ça. C'est la semaine prochaine, c'est mercredi prochain. Ouais. Et je crois qu'il y a déjà eu trois sites. Et le dernier sur Marmande. Donc, effectivement.
Donc, c'est une prise de conscience tardive, mais il faut la prendre.
Bah ouais, c'est ça. De toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut y aller. Quoi.
C'est la loi, et en plus c'est à l'échelle européenne.
Oui, complètement.
Et qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Espagne, il y a des coins qui sont plus avancés que nous. Hein.
Ouais. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que sur la région, enfin, il y a les EPCI sont vraiment en ordre de marche et ils sont vraiment dans la volonté, de trouver des solutions pour accélérer les choses, quoi. Donc, il y a un vrai dialogue. Entre la région et les EPCI pour trouver des solutions quoi et pas se trouver en difficulté.
Tout à fait.
Ouais.
Bon, ben c'est sur ces mots-là que nous arrêtons notre émission en mode Caruel, vice-présidente du conseil régional en charge de l'économie circulaire, économie sociale et solidaire et prévention et gestion des déchets. Alors on va finir par une note musicale avec la caissière du super. De Arthur H. Alors pourquoi Arthur H.
Pourquoi Arthur H. J'avais été le voir en concert à Castres. Il avait terminé son concert par cette musique et la caissière du super. Voilà, on parlait des invisibles tout à l'heure. C'est vraiment mettre en lumière, notamment pendant la période Covid. Hein, on en a parlé et voilà, c'est mettre en avant tous ceux qu'on voit pas et je trouvais ça important.
Très bien, sur ces notes-là, que nous finissons l'émission Parlons Terroir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye
merci.
Bye.
Merci à vous. Du super.
pour le boss, pour le boss du boss, le boss pour le boss. Elle est vraiment super, la caissière du super, pour le boss du boss. Pour son gosse, pour les beaux yeux du gosse, elle bosse pour son gosse. Elle est vraiment super, la caissière du super, pour les beaux yeux du gosse, elle bosse. Les caméras ne se lassent pas d'enregistrer les petits travers de la du super. Elle est vraiment super. Elle bosse, bosse pour la banque, pour les beaux yeux de la banque. Elle bosse pour la banque. Elle est vraiment super, la caissière du super, pour les beaux yeux de la banque. Elle bosse, elle bosse, bosse pour la bouffe, pour la bouffe. Elle est vraiment super, la caissière de super, pour la bouffe de son gosse, elle bosse. Les caméras ne se lassent pas d'enregistrer le petit travers de la caissière de super. Les like